Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quel sera l'impact socio-économique de la construction du port en eau profonde de Banana? On en parle aujourd'hui dans cette émission au Capi Service avec Monsieur Apollinaire Soka, coordonnateur de la société civile de Boma et coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local IDL. Monsieur Apollinaire Soka, bonjour.
Bonjour camarades, bonjour, bonne journée pour tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. On vous retrouve tout à l'heure. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler du mode de prélèvement de la taxe RAM. Que dit la loi congolaise à ces sujets? Maître Hervé Diakissé, avocat au barreau du Congo central, sera notre invité. Et nous aurons également M. Séraphin Oumba, directeur de cabinet du ministre des Pétanques. Pour participer à cette émission, il suffit de composer le 081 890 63 94. Pour participer, nous allons vous appeler, nous allons vous rappeler. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Jean-Claude Siala, la mise en onde. Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation de cette émission au micro. Aujourd'hui, Daniel Keshama. Bienvenue à tous.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de la construction du port en eau profonde de Banana. Les travaux ont été, les coups d'envoi des travaux a été donné hier par le président de la République à Mwanda dans la province du Congo central. Le coût de ces travaux sont estimés à plus d'un milliard de dollars et ces travaux vont s'achever en 2025. Ce port permettra à la RDC d'avoir une ouverture sur la mer et surtout d'accueillir de gros bateaux. Alors, quel sera l'impact socio-économique du port en eau profonde de Banana? Nous avons en ligne Monsieur Apollinaire Soka, coordonnateur de la société civile de Boma. Vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez également participer à cet échange, appelez déjà au 081 890 63 94 pour participer. Et nous tentons de joindre aussi les ministres des Transports et Voies des Communications pour en savoir un peu plus. Monsieur Apollinaire Soka, encore une fois, bonjour.
Bonjour mon ami.
Alors, que représente pour vous le lancement de travaux de ce port en eau profonde des Bananas? On en a parlé depuis des années, mais aujourd'hui, le coup d'envoi est donné. Quelle est votre réaction?
Oui, le coup d'envoi est donné. Nous saluons la volonté et politique du gouvernement, du chef de l'État actuel, pour avoir donné le coup d'envoi. Mais comme l'a dit monsieur le gouverneur du Congo central, le gouverneur AI du Congo central, les rendez-vous est donné. Les rendez-vous, c'est-à-dire le jour où on va inaugurer les ports à nos profondes de Banana. Et c'est ça le premier sentiment. Ce sont des sentiments de prudence, ce sont des sentiments d'encouragement pour le chef de l'État et le gouvernement congolais, mais ce sont aussi le sentiment de la responsabilité de l'avenir. Vous savez, l'approche de la durabilité, c'est une approche qui tient compte de la génération actuelle et de la génération future. Voilà les sentiments qui nous animent à ce moment avec ces méga projets du port en eau profonde de Banana.
Et qu'est-ce que cela représente pour vous et pour la RDC dans l'ensemble?
Au fait, les analyses économiques menées par les études et même par le gouvernement, les discours du gouvernement, le port en eau profonde de Banana va créer une ouverture de la République démocratique du Congo au reste du monde et va normalement, nous pensons que ça va élever le niveau des transactions économiques qui se passent au niveau maritime pour que la République démocratique du Congo soit proche du reste du monde et relever le niveau de balance de paiement de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire contribuer au développement économique de la RDC.
Voilà, nous savons qu'à un certain moment, quand on parlait de la construction d'un pont route rail, je crois, entre Kinshasa et Brazzaville, beaucoup des notables du Congo central étaient contre. Ils ont dit, mais cela risque de porter un coup dur. Il faudrait d'abord porter un coup dur à l'économie nationale. Il faudrait d'abord commencer par le port de Banana.
Oui. Je crois que c'est ça, au fait, le point de vue qui a animé tous les Congos en majorité. Il faut avouer que même moi, j'ai signé la pétition contre le gouvernement qui pensait qu'il faut commencer par le pont route rail. Vous savez, déjà avec l'époque du président sortant, M. Joseph Kabila, cette question a été une question qui a pratiquement créé un tollé général dans le Congo central. Et nous étions quand même surpris qu'à l'issue de tous les Congolais, moyens et que le contrat des ponts route rail était signé. Vous savez, c'est les ponts route rail, c'est bien, c'est bon pour la question de NUPAD, c'est bon pour la question d'intégration africaine. Mais dans la logique de l'intégration, il faut que chaque pays amène ce qu'il a et puisse participer sur le marché africain, sur le marché régional. Mais vous savez que ces ponts-là étaient en train de couper la République démocratique du Congo, de s'en aller vers l'océan. Vous voyez la carte géographique de la RDC, le Congo central, c'est le Congo central qui débouche vers l'océan, qui débouche vers le reste du monde. Et construire ces ponts, c'est-à-dire oublier le Congo central avec tout ce qu'il peut avoir comme port, route et sa proximité de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons pensé en son temps que ce n'était pas nécessaire. Et quand Félix Tshisekedi est arrivé, il a persisté, il continue et avec... Et l'implication de la Banque africaine de développement. Je crois que le contrat a été signé en 2019, au mois d'octobre, au niveau de l'Afrique du Sud. Nous étions tous surpris. Et nous avons dit il faut commencer par les ports en eau profonde. Dans toute la province du Congo central, les Banakongo se sont élevés pour dire non, il faut continuer, il faut commencer par là. Il y a eu des marches de Kasangulu jusqu'à Mwanda. Et aujourd'hui, contre toute surprise, contre toute attente, au moment où nous nous préparons une pétition là-dessus, nous avons vu le 11 décembre 2021 être surpris d'une signature de contrat entre Dipoose et la République démocratique du Congo. Nous saluons l'écoute de la population congolaise par le chef de l'État et par le gouvernement congolais. Nous disons merci, mais il y a des préalables que nous devons discuter jusque-là. Ce sont des préalables environnementaux.
Bien, nous savons que le contrat avec DP World, le gouvernement précédent l'avait signé déjà en 2018. Alors, qu'est-ce qui a fait que les travaux ont traîné et il y a eu encore signature d'un autre contrat avec la même entreprise?
Bon, en fait, en lisant et puis en suivant les membres du gouvernement, et puis quand vous lisez les anciens contrats et de certains avenants à ce sujet, je dois vous dire... que le gouvernement congolais ne se retrouvait pas en termes de droits. Ça, c'est de un. Et de deux, c'était trop de privatisation de ce contrat par les droits du gouvernement congolais. Il y a eu déjà les entreprises qui pensaient qu'ils devraient avoir dans les comptes, dans les 25% du gouvernement congolais, il y a eu des entreprises qui devraient avoir plus de 35%. Alors que on devrait se poser la question, et quand vous voyez ces entreprises, apparemment ce sont des contrats qui étaient plus des contrats individuels, et nous pensons que c'était pas du tout au profit du gouvernement, au profit de la population congolaise. Bon, en lisant le discours, en suivant les effets, je crois que les chefs de l'État et le gouvernement actuel ont pensé qu'il fallait réviser le contrat pour que ça soit au profit des Congolais. Voilà pourquoi on a signé le contrat. Mais nous devons, je dois le dire, que ce contrat doit être rendu public pour que les Congolais le lisent davantage, comme nous avons lu l'ancien contrat. Les Congolais le lisent davantage et donnent davantage leur point de vue. Vous savez, il y a déjà un problème. Quand vous lisez l'économie minière à la République démocratique du Congo, le problème, c'est la loi sur la sous-traitance. cette loi en soi n'est pas nécessairement respectée. Et nous, nous disons, est-ce que...
Monsieur Apollinaire, la loi de la sous-traitance donne d'abord priorité aux entreprises congolaises. Alors, on espère que dans l'exécution...
Est-ce que sur le terrain, c'est ce qui se fait? C'est ça le problème. Bien. Et comme sur le terrain, ça ne s'applique pas, les grands projets et tous les contrats signés ne sont pas des contrats pro pauvres. C'est ça un peu le problème chez nous. Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Bien, on va revenir tout à l'heure sur la sous-traitance par rapport à ce grand projet. On va accueillir les auditeurs. Serge nous appelle de Kindu, Charles à Kisimba et à Lubumbashi. Vous voulez participer, composez également, composez les 081-890-63-94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, quel sera l'impact socio-économique du port en eau profonde de Banana? Serge depuis Kindu, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Capi, bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
Voilà, la construction des ports en eau profonde, c'est une bonne chose pour tous scientifiques et commerçants parce que si ces projets vraiment arrivent jusqu'à la destination, on pourra remercier et ça pourrait quand même nous amener quelque chose dans le pays. Mais permettez-moi, messieurs les journalistes, de vous dire que moi, je pense, à mon avis, que c'est seulement une promesse de plus parce que on a vu déjà les présidents de la République promettre plusieurs choses à la fois, même si ça ne nous donne pas les résultats probants. Et nous, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, on a un problème d'argent, on a beaucoup de difficultés. Mais un projet de plus d'un milliard de dollars focalisé seulement sur la construction de ce port-là, qui est de miser cet argent dans la guerre où il y a à l'Est. Mais moi, je pense que c'est seulement de la perdition de fonds inutilement. Chez nous, par exemple, ici au Maniema, il y a une promesse, il y a le coût d'envoi de la route qui mène Kindu-Bukavu. On a fait seulement les chantiers et ça n'a pas allé. Aujourd'hui, il y a l'impraticabilité, les véhicules ne viennent pratiquement plus. Bon, je pense que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est seulement une promesse de plus. Nous, la population, on a suffisamment assez de problèmes comme ça. Ils nous promettent de nous promettre et à la fin des comptes, rien ne se réalise.
Bien, merci. L'invité va répondre tout à l'heure. Charles Kisimba de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Allez-y.
En tout cas, tout ce qui peut contribuer au bien-être de la population congolaise, cette population qui n'est fait qu'accroupir dans la misère jusque-là, en tout cas, c'est une très bonne idée à saluer. Dans la population, comme moi, nous avons tous suivi cette information-là, en tout cas, ça nous a soulagés. Mais le problème à ce niveau, là que nous avons peur, on a dit que c'est jusqu'en 2025. Les projets s'annoncent, s'inscrivent, comme tu dirais, à moyen terme. Alors, cette population ici, il y a déjà des victimes, des promesses. Il ne faut pas s'inscrire dans les moyens termes. Il a fallu, par contre, l'exécuter au plus vite possible pour quand même encourager cette population ici qui a tant attendu.
Charles, vous auriez souhaité que les travaux finissent en quelle année, par exemple? Finissent quand exactement?
On devrait prendre au maximum même 24 mois. Ça pourrait quand même encourager la population. Parce que plus l'État... donc plus les jours que ça va prendre, plus il y aura quand même un certain relâchement. Et vous verrez que et surtout si les travaux sont financés par l'économie nationale ou bien c'est le gouvernement qui a financé cela, vous verrez qu'il y aura toujours les relâchements à tout moment.
Bien, merci d'avoir appelé. Notre invité va répondre. Monsieur Apollinaire Soka, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs.
L'inquiétude de M. Charles, tout comme l'ami de Kindou,
oui.
Sur les promesses qui ne se réalisent pas, moi je crois que ça c'est le point de vue de tous les Congolais. Et c'est ce que nous vivons, ben, les projets qui commencent, mais qui ne s'arrêtent pas. Mais je pouvais dire à M. Charles de Lubumbashi...
Les projets qui commencent, mais qui ne se terminent pas.
Qui ne se terminent pas, voilà. Nous sommes en train de vivre ça avec la route Boma-Mwanda, qui a commencé depuis que le chef de l'État est arrivé, avec les 100 jours, mais cette route n'est jamais finie. Après 3 ans du pouvoir, la route n'est jamais finie. Mais ça, c'est le constat observé par la majorité des Congolais. Mais je peux dire à mon ami Charles de Lubumbashi que le projet Port en eau profonde, c'est un partenariat public-privé. Et c'est un BOT. Et là, c'est les amis des Deep World qui apportent l'essentiel
les capitaux.
Financement. Mmh. Et c'est essentiel de financement sur 1 milliard 200 millions. Ils ont déjà 1 milliard qui sont les cash flows, c'est-à-dire l'argent frais qui existe et qui peuvent commencer les travaux. Bon, mais je crois que l'ouvrage dans son ensemble, avec les 1 milliard, ils auront fait presque 80% de l'ouvrage portier. Donc à ce niveau-là, comme c'est le PPP, je crois que le port sera construit. Je crois que le port sera construit. Si et seulement si les deux parties signataires des protocoles d'accord respectent les clauses et que les uns et les autres ne se sentent pas lésés dans dans la mise en œuvre du projet. Voilà tout ce que je peux dire. Par rapport à l'ami de Kindou, mais la guerre c'est une question essentielle. Et je crois que l'état de siège est évalué à tout moment par les députés et par le parlementaire. Il est bon que nos parlementaires nous disent comment ça évolue à leur niveau. Et quels sont les résultats des évaluations pour que nous puissions finir cette guerre qui n'a que trop duré. Voilà tout ce que je peux dire sur les deux préoccupations de mon ami de Kindou, que j'ai oublié le nom, et de mon frère Charles de Lubumbashi.
Bien, est-ce qu'on peut dire que pendant les travaux... il y a Charles qui est revenu sur la durée des travaux. Il dit, au lieu d'aller jusqu'en 2025, pourquoi ne pas exécuter les travaux en 24 mois?
En fait, ce sont des questions techniques. Je crois que quand vous êtes à la presqu'île de Banana, avec la profondeur de l'océan, il est prudent que les techniciens puissent faire une étude du sol. Vous savez, quand vous êtes à Banana, vous êtes à Mwanda, je crois que le vendredi 21 janvier, je me suis retrouvé dans cette zone. Je vous dis que durant 6 heures, l'eau de l'océan avait traversé la route de Banana. Et ça fait 6 heures du temps. Et pratiquement tout ce que Perenco a mis pour protéger la route, les bretelles qui va jusque dans ces installations, eh bien, ces ouvrages étaient pratiquement emportés par les eaux de l'océan. Et donc, construire un port sur un terrain sablonné comme celui-là, avec de l'eau salée comme l'eau de l'océan, je crois que les techniciens doivent prendre des précautions nécessaires pour qu'on tienne compte du béton armé qu'on mettra là-dessus. Je crois que les 3 ans qu'ils ont donné, je ne peux pas dire autrement, je me rallie aux aspects techniques de consulter.
Bien, alors ils craignent aussi, les auditeurs craignent, quand souvent dans notre pays on fait des annonces, des inaugurations avec pompe, tout ça, etc. Et puis après, il n'y a plus rien.
Oui, je crois que nous aussi, nous sommes en train de nous poser la question, qu'est-ce qui va passer. Mais avec le PPP, je crois qu'il est possible que le projet soit réalisé.
D'accord.
Le projet soit réalisé parce que le cash flow de 1 milliard est disponible par les développeurs du projet et les concessionnaires. Voilà.
Bien. Alors, quelles sont les opportunités que ces travaux peuvent créer, générer pour les entreprises congolaises? On était en train de parler de la sous-traitance tout à l'heure. Est-ce qu'on peut déjà penser que les entreprises congolaises pourront sous-traiter avec DP World, avoir peut-être à sous-traiter quelques marchés, quelques travaux liés à la construction de ces ports?
Oui, c'est notre grande préoccupation pour le moment. Vous savez, durant l'année 2021, il y a eu des frictions, il y a eu des contradictions entre certains Congolais de ma zone et certains Chinois qui sont venus exploiter les carrières au niveau sur la route Boma-Mwanda. Et nous avons vu là la montée et la présence des entreprises chinoises qui sont arrivées à l'horizon et sous envie de ces grands projets qui devraient être construits déjà à l'époque du président Joseph Kabila. C'est pour dire que la question des sous-traitances doit être bien discutée. À qui donner le marché et à qui a répondu aux conditions. J'étais en train de parler de l'économie minière. Et là où nous avons vu que sur la production réalisée et comment les Congolais qui devraient sous-traiter étaient marginalisés et ne gagnaient presque pas le marché. Ça, c'est de un. De deux, la sous-traitance, la loi sur la sous-traitance doit aussi ouvrir une brèche pour permettre au système banquier congolais de pouvoir financer ces petites et moyennes entreprises qui sont dans la zone. Vous savez, ils n'ont pas assez de moyens et quand ils doivent faire le cofinancement sur un marché gagnant, le marché bancaire congolais ne leur permet pas à œuvrer, ne leur permet pas à capter le financement comme il se doit. Donc il faut revoir quand même l'approche des fonds de promotion de l'industrie chez nous et puis voir un peu tous ces collecteurs financiers qui se trouvent en République démocratique du Congo, comment ils peuvent créer des paquets de fonds, des paniers financiers pour permettre aux sous-traitants, aux petites et moyennes entreprises congolaises de capter et de signer le contrat de sous-traitance dans la zone. Sinon, la zone sera émergée par les Chinois et par les entreprises expatriées et les Congolais ne donneront que leur main-d'œuvre et ne gagneront rien comme finance et comme capitaux.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous parlons de l'impact socio-économique de la construction du port en eau profonde de Banana. Bienvenue est à Kinshasa. Pierrot nous appelle de Lumbashi. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Ah oui, je dis d'emblée, j'aimerais d'abord féliciter le gouvernement qui a essayé de donner la forme à un projet vieux de 40 ans. Maintenant, on voit que le gouvernement essaie un peu de donner la forme à ce projet. Mais au-delà de ces encouragements, il y a certaines inquiétudes qui persistent. On nous dit que c'est un projet qui va consommer plus d'un milliard de dollars. L'invité tout à l'heure nous dit que c'est un partenariat public-privé. On chiffre l'investissement de l'entreprise émiratite, sans toutefois qu'on nous dise la RDC va contribuer à la hauteur de combien. Au-delà de ça, nous aimerions bien connaître la part, les gains que va retrouver la RDC, puis la durée d'exploitation de ces ports par cette entreprise, parce que je ne pense pas qu'elle va rester éternellement au Congo. C'est un port qui est construit au Congo. Cette entreprise-là va l'exploiter pendant combien de temps et puis quand est-ce qu'on va les remettre en République démocratique du Congo? C'est juste ça mes questions.
Bien, merci. Bienvenue de Kinshasa. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole à Pierrot de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Pierrot?
Oui, c'est Pierrot Pagnan. Je suis tellement précis dans ce que je vais parler. Premièrement, je vois sur l'aspect touristique. Parce que nous avons étudié à l'école aux humanités. Nous avions étudié que il y a l'embouchure du fleuve Congo, il y a telle rivière, il y a telle chose. Alors, avec ce genre de projet, ça va faciliter aussi des gens à aller découvrir le Congo profond. Ça, c'est un grand aspect. Alors, pour cet aspect-là, je voulais demander, comme c'est un projet que le président vient de lancer qui va sur 3 ans et qui va nous prendre plus de 1 milliard. Alors, comment il ne pouvait pas mettre là pour 5 ans et relier le Congo profond? Donc, il met le rail qui relie la province peut-être de la Lomami, du Kasai, du Haut-Katanga, du Matadi partout. Et on met le train à grande vitesse comme se fait partout ailleurs. Là, c'est une première question que je voulais poser. Le deuxième aspect de ma question était de savoir qu'est-ce que nous pouvons importer et exporter Et quelles sont les destinations? Parce que on a appris la géographie que par le papier. Comme le Congo est plus grand, on n'a pas les moyens d'aller visiter partout là. Qu'est-ce que nous allons importer? Et quels sont les bénéfices? Parce que le bénéfice va d'abord être à ceux-là qui nous ont financés. Nous allons bénéficier quoi? Et comment ils ont fait pour garantir ou sécuriser le clandestin? Ceux-là qui vont clandestinement, comme nous sommes habitués, nous voyons comme dans l'océan, les gens en train de mourir. Est-ce qu'il y a des garde-fous pour toutes ces choses-là? Je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Monsieur Apollinaire Nsoka, à vous la parole.
Oui, au fait, je crois que c'est bienvenu de Lubumbashi qui a l'inquiétude sur le coût du projet.
Bienvenue à Kinshasa.
Il est avec donc Monsieur Pierrot de Lubumbashi, si je ne m'abuse pas. Oui, au fait, d'abord, le contrat, on doit savoir que sur le coût d'investissement de ce projet, le gouvernement congolais, la ville de moitié du Congo, a comme cote-part les 1/3. Donc, si vous prenez les 1,2 milliard, les 1,2 milliards, vous prenez les 1/3, vous constatez que nous sommes à 400 millions quelques de dollars américains que le gouvernement congolais doit chercher. Et donc, si les amis de Dipond financent et qu'ils ont un cash flow de 1 milliard, maintenant là, donc ils auront financé une partie de la République démocratique du Congo. Ça c'est, et je crois que le contrat a des clauses précises là-dessus. Par rapport aux questions touristiques, et puis la construction, la durée, c'est que les amis de Dubaï vont exploiter le port durant 30 ans, mais avec une possibilité de rallonge. Donc, durant 30 ans, les joint ventures vont exister avant qu'on puisse les confier à la République démocratique du Congo. Donc, c'est clair, c'est ça la logique qui a été déjà signée à l'époque avec le président Joseph Kabila. Et puis, aujourd'hui, je pense que cette clause est rentrée dans le nouveau contrat. Et c'est des questions touristiques. Je regrette que, quand on a mis pas des questions touristiques, oui, il fallait venir à Mwanda. Mais je crois que cet aspect va être totalement affecté. Et que la pointe de Mwanda ne va plus exister avec le port en eau profonde. Ça, c'est de un. Et puis, les îlots, les tombes où se trouvent les mangroves ne vont plus aussi exister. Parce que Boulambemba sera aussi affecté. L'île de Boulambemba sera affectée. Il y a plusieurs questions que le gouvernement et les amis des Deep World doivent répondre. La question de savoir quelle en est-il de la délocalisation de la population militaire et civile qui se trouve dans la presqu'île de Banana. Ils vont être délocalisés où? Et s'ils seront délocalisés, quel est le niveau de dédommagement qui va être opéré? Ce sont des questions essentielles. Et puis, comment les développeurs du port en eau profonde de Banana va atténuer les impacts environnementaux qui sont de plus en plus visibles aujourd'hui. Parce que le fait de signer les contrats, de poser la première pierre, on se dit, le gouvernement congolais, le président de la République démocratique du Congo, ne recule pas, il va tout droit au but. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il pense sur les questions environnementales? Parce que le parc marin de mangroves, où nous trouvons la maternité des poissons et des autres espèces halieutiques, va disparaître. Ce parc va disparaître, une bonne partie du parc va être affectée et que cette question environnementale, c'est une question essentielle. Vous savez, la RDC est un pays solution. Nous le disons lors de la COP 26, mais il faut qu'on évite des actes contraires à ce que nous sommes, à notre engagement au niveau international.
Monsieur Apollinaire, voilà. Sur le plan économique, on dit que ce port va donner une certaine ouverture à la RDC. Nous allons accueillir des grands bateaux qui vont venir de l'étranger. Et puis, de notre côté, parce que je pense que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, on parle beaucoup plus de la zone économique, de libre-échange, etc. Qu'est-ce que nous, on sera aussi à mesure de fournir, bah, sinon on risque d'être envahi par des produits qui viennent d'ailleurs, et nous, on ne pourra pas aussi servir les autres.
savez, camarades, vous savez, quand vous lisez l'étude des Deep World des années passées avec le contrat signé avec le ministre José Makila et l'actuel ministre des Tourismes, à l'époque il était DG de l'OEBK, aujourd'hui ministre des Tourismes, mon frère Modéron Timba, quand vous lisez ces contrats, quand vous lisez les études, 75% des marchandises importées par la République démocratique du Congo qui passent par le port de Pointe-Noire, ça va tout juste, ça va tout droit vers l'économie minière qui est les Katanga. Et donc, je crois que la question d'importation ne posera pas de problème. Nous allons continuer à importer, mais nous passerons maintenant par la porte de la République démocratique du Congo. Et je dois vous dire que le port de Banana aura 18 000 tonnes. Cette capacité de 18 000 tonnes, c'est supérieur au port de Pointe-Noire. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que le port est inséré dans une politique économique afin de permettre à la République démocratique du Congo d'exporter, c'est-à-dire de vendre à l'extérieur. Et c'est ça le grand problème. Quand vous lisez les discours, les points de vue économiques du gouvernement, c'est l'économie minière qui est plus visée. Et l'économie agricole n'est pas au rendez-vous. Ben, nous pensons qu'avec les 145 territoires, le programme de développement local du gouvernement, nous pensons que l'économie agricole va être réhabilitée. Et si seulement si elle est réhabilitée, la République démocratique du Congo doit répondre aussi au rendez-vous du donner du recevoir, c'est-à-dire vendre son produit sur l'économie mondiale. Et c'est ça, je crois que si le port ne s'inscrit pas dans une politique économique globale de la République démocratique du Congo, il y a danger que nous ne puissions que être des acheteurs et que quand le bateau va rentrer en Europe ou le voir rentrer en Asie, ce bateau ne sera jamais chargé ou sera chargé à moitié, sinon à un quart. Voilà, à ce moment-là, ce n'est pas du tout intéressant pour les économies locales et pour les économies des zones influentes du port en eau profonde de Banana.
Mais on parle aussi d'une zone industrielle qui va se développer à Moanda, à Banana, autour de ce port. Il y a plusieurs activités connexes.
Oui, le port en soi lui-même crée les activités connexes. Quand vous êtes à Matadi, quand vous êtes à Bouma, vous allez constater que les effets du port sur la vie sociale et économique de la population est réel. Ça, c'est de un. Mais la zone économique qui va être créée, va être créée sur base de quoi? Sur base de quelle production de la zone influente du port? Ou sinon, on va inonder les hangars pour recevoir les matières premières qui viendront du Katanga. Sinon, c'est ça. Moi, je crois que c'est là aussi que le gouvernement congolais doit mettre la réflexion sur la table pour nous dire quelle est l'opportunité de la zone économique qui va être créée. Parce que cette zone économique va jusqu'à Maluku, à Kinshasa. Et donc, vous avez, quand vous suivez les conseillers du chef de l'État, quand ils parlent des nouveaux paradigmes dans la zone économique qui va être créée autour du projet Banana, autour du projet Grand Inga et beaucoup de projets, nous devons réfléchir sur ça pour ne pas créer des copier-coller. Parce que les copier-coller risquent de faire de nous des économistes et des chambres et que nous ne portons pas les solutions que nous voulons. Voilà, je crois que c'est réfléchir davantage, c'est mieux que de détruire l'environnement et pour ne pas penser aux générations futures. Merci.
Quel sera l'impact du port, l'impact socio-économique de la construction du port en eau profonde des Banana? Héritier est en ligne depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, Héritier.
On vous écoute, Héritier.
J'ai quatre questions à poser à l'Héritier.
Oui.
Lors de la programmation de certains projets, il y a eu des fonds qui ont été débloqués. Je pense bien, M. Jody. Je demande si à quoi auraient servi les fonds qui ont été débloqués pour lors de la programmation de la construction du port de Banana.
Ben, vous avez suivi, les fonds, c'est l'entreprise des Émirats Arabes Unis qui vient faire les travaux et qui apporte les financements.
Ah voilà, bien compris. La deuxième question, je voudrais, c'est une suggestion que je voudrais avancer ici. Bon, il faut qu'il y ait, je voudrais savoir quelle est ma condition qui est mise en place pour faire le suivi de la réalisation de ce projet pour qu'on ne connaisse plus les emprisonnements après le non-finissant de ce projet, comme nous l'avions connu à Bukangalonde dans la construction de Moutard Kinshasa, il y a eu des arrestations après le non-achèvement de ce projet-là. Quelle est la commission qui a mis la place pour faire le suivi de ce programme?
D'accord. La commission des suivis. Monsieur Apollinaire, à vous la parole.
Je crois que, bon, au fait, jusque-là, nous avons l'inspection générale des finances qui est attitrée de suivre tous ces genres de préoccupations. Moi, je crois que c'est ça. Et j'ai dit à M. Héritier, je crois que tous les Congolais nous sommes tenus de suivre, de constituer cette commission de suivi. C'est un peu ça le contrôle citoyen que nous avons toujours demandé à la population congolaise. Nous sommes obligés de suivre. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de demander au gouvernement de nous dire clairement, et bon, déjà les informations sont en train d'être données, mais de publier les contrats qui a été signé. Ça, c'est de un. Et que nous avons suivi la présence de l'inspecteur général des finances. Ben, aujourd'hui, nous croyons et nous espérons qu'il va suivre, parce que ça relève aussi de ses prérogatives, pour éviter, et comme l'a dit M. Héritier, et ce qui est arrivé à Bukangalonzo, pour éviter tout ça. Nous sommes obligés de suivre, mais je crois que nous sommes tenus d'être sérieux. Nous, les Congolais, le gouvernement congolais, et tous ceux qui sont impliqués dans la gestion et dans la mise en œuvre de ces projets.
Voilà, donc nous avons la réaction de Jean-Marcel Rivin depuis Lubumbashi. Il dit « Je salue cette initiative du chef de l'État parce que ce port apportera beaucoup d'intérêt à la République démocratique du Congo. Notamment, cela va susciter les emplois pour les jeunes du Congo central qui ont déjà passé beaucoup d'années au chômage. » En plus, beaucoup de marchandises seront vendues à un prix abordable grâce à ce port. Je demande au gouvernement de travailler d'arrache-pied pour que ces travaux soient effectivement réalisés d'ici 2025. Monsieur Apollinaire, votre réaction?
Je crois que c'est l'opinion de tout le monde, c'est le souhait de tout le monde. Que le port soit réalisé, le port soit construit. Je l'ai dit que quand vous êtes à Matadi, vous allez constater les effets du port. Et quand vous êtes à Boma à l'époque, nous constations aussi les effets du port. Ça a des effets pratiquement partout. Je vais vous donner un exemple. À Boma, quand le port de Boma a commencé à connaître une baisse d'activité, je dois vous dire que dans les hôtels, dans la ville de Boma, plus de 75% des hôtels n'étaient presque plus visités. Il y a certaines entreprises ont dû fermer et le bilocos qui était vendu sur le marché de Boma, qui avait aussi des effets sur les dépôts bancaires. Ça, c'est, je l'ai dit en connaissance de cause parce que j'ai dirigé les travaux des étudiants et dans ce sens-là, mais les banques aussi ont senti que la baisse d'activité portière portait un coup fatal dans leurs dépôts. Mais c'est ça aussi. Dans les écoles privées ont vu pratiquement plus de 40% des élèves quitter l'école pour aller dans les écoles publiques. Donc, les ports créent une activité commerciale, une activité économique connexe. Ça, c'est clair. Et nous saluons que le port soit conçu parce que les Congolais dans son ensemble et les Nekong aussi attendaient ce port-là. Et nous pensons que les chefs de l'État, le gouvernement, se mettra, pourquoi pas les Congolais dans leur ensemble, se mettra pour suivre les travaux afin que les choses se terminent comme il se doit en 2025.
Héritier a posé la question de savoir s'il y a...
Déjà, vous devez le savoir. Que le fait de poser la première pierre, avant même qu'on pose la première pierre, il y a eu déjà de main-d'œuvre qui s'est tracté autour de ce projet. Il y a eu déjà de main-d'œuvre qui s'est tracté autour de ce projet et je crois que lors déjà de la construction, on va utiliser une main-d'œuvre, d'abord une main-d'œuvre locale et la main-d'œuvre qui viendra d'ailleurs pour être créée, pour apporter l'expertise. Donc c'est clair qu'il y aura création d'emplois autour de ce projet.
Voilà, donc il y aura, on suppose qu'à Moanda, il y aura développement de l'hôtellerie, du secteur de l'hôtellerie, la restauration, etc. et beaucoup d'autres activités tout autour. Justin nous appelle depuis Arou, Justin Kalabia. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama. Bonjour à notre invité Apollinaire Soka.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai une suggestion avant que je pose ma question, monsieur Jody.
Oui.
Et donc, j'aimerais suggérer que nous saluons premièrement la volonté du chef de l'État, peu importe qu'il est entouré des gens qui avaient détruit ce pays, permettez-moi le terme, avec Joseph Kabila. Parce que nous, les Congolais, nous sommes vraiment mal intentionnés. Nous n'avons pas de bonne volonté et aussi... Et nous n'avons pas aussi pitié de ce pays. La bonne volonté que le chef de l'État est en train de faire, vous voyez, même il y a les hommes politiques, donc il y a les politiques qui disent que non, lui, il a déjà commencé la pré-campagne. Mais je comprends que tout ça, ce sont des mauvaises volontés des Congolais. Et monsieur, je dis, la question est de savoir, est-ce que cet avenant qu'ils ont signé ou bien soit ces contrats que les chefs de l'État ont signé, est-ce que ça n'aura pas d'impact ou bien ça ne sera pas comme les camps de 100 jours qui avaient créé beaucoup de scandales ici en République démocratique du Congo? Ça, c'est la première question. La seconde, monsieur Jody, quand j'écoute la façon dont monsieur Apollinaire est en train d'intervenir, en tout cas, je suis très ravi et je pense que le Congo, à partir de 2025, ça sera très développé. Et maintenant, lorsque il y aura maintenant l'audit à partir de 2025, parce que c'est à la fin où je pense qu'on va auditer pour voir que non, est-ce que le budget qui est les 1 milliard qui a été financé pour ce projet est concrétisé? Est-ce que vraiment il y aura un suivi qui va accompagner ce projet? Merci et bonne journée, monsieur Jody.
Bien, merci. Franck, vous êtes à Tshikapa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question, Franck?
Oui, j'aimerais juste savoir, monsieur Jody, je demande à l'invité. Bon, j'aimerais juste comprendre, je n'arrive pas à comprendre sur ce point-là. Vous savez, le président de la République, dans son projet... de l'eau profonde de bananes, voulais-je dire, il a déjà promis certains projets qu'il n'a pas encore réalisé. Comment il peut lancer, il peut donner le go pour la construction du pont en eau profonde de bananes et que le suivi n'est pas installé? Vous croyez que s'il n'y a pas le suivi, on aura le résultat escompté à la fin de ces problèmes-là de ports de bananes? Moi, j'aimerais demander au président de la République et à tous ses conseillers qui sont à ses trousses de faire un suivi pour que ces travaux-là évoluent normalement. Le Congo a besoin d'un développement durable. Nous avons besoin d'un développement. Et je sais que avec la construction des ports à l'eau profonde de bananes, là, il y aura quand même un taux de chômage qui va diminuer. Si vous comprenez bien, il y aura de ces Congolais-là qui seront engagés. Vous allez comprendre que le taux de chômage va diminuer. Mais si le taux de chômage peut accepter de diminuer, bien sûr, nous acceptons. Mais le suivi d'abord.
Monsieur Franck, vous insistez sur le suivi, c'est pour éviter la corruption, le détournement des fonds, etc.
Oui, merci pour le détournement des fonds et la corruption. Ce sont des choses
oui.
qui battent.
Voilà, oui, d'accord. Monsieur Apollinaire, voilà, certains auditeurs craignent et redoutent qu'il y ait corruption, détournement des fonds et que les travaux s'arrêtent en si bon chemin.
Bon, en fait, je crois que c'est ça, en fait, le contrôle citoyen. Et l'expérience des Congolais est tellement négative sur cette question des projets, des programmes. C'est pourquoi les Congolais se posent la question, est-ce que le projet va terminer? Est-ce que le projet sera réalisé à 100%? Moi, je crois que notre inquiétude là est totalement légitime et fondée. Et voilà pourquoi je crois que l'inspection générale des finances doit talonner la mise en œuvre des projets. Ça, c'est de un, ça, c'est du côté congolais. Mais aussi, nous sommes de plus en plus certains que le développeur lui-même, ayant un objectif à poursuivre, va éviter les gaspillages et va éviter de tomber dans une corruption. Vous savez, la question des 100 jours, c'est une question que les Congolais n'arrivent pas à oublier. Et nous pensons que nous n'allons pas oublier ça. La question des Bukangalons, ce sont des questions que nous n'allons pas oublier aujourd'hui. C'est pour dire que l'argent a été versé et l'argent n'a servi à rien. Nous sommes restés à l'étape du départ alors qu'on devrait évoluer. Et c'est ce que les Congolais pensent, de quitter le point zéro pour aller à un point supérieur à zéro. Et je crois que je ne réponds pas à la place du chef de l'État qui a commencé des projets, mais non encore commencé. Mais par contre, si la question des projets Dinga, la question des projets de port en eau profonde, c'est un partenariat public-privé et ce n'est pas l'argent du gouvernement qui est mis au premier plan, c'est l'argent des développeurs et qui s'engage de réaliser les projets dès qu'on lui donne le go. Et comme le go lui a été donné, voyons voir dans deux ou trois mois quels seront les effets sur le terrain. Et nous pouvons nous retrouver pour dire que le projet a commencé ou le projet n'a pas commencé.
On va terminer avec Olivier depuis Kenge. Bonjour Olivier, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Antoine, c'est pas Olivier.
C'est plutôt Antoine, sorry. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Antoine?
Alors, je viens de suivre. Le projet est très bon. Mais j'ai deux questions à poser à l'invité. Alors, ce projet, pourquoi il s'étend au-delà du premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce que ce n'est pas un instrument de propagande politique afin de donner de l'espoir à la population du Congo central en ce qui concerne les prochaines élections présidentielles de 2023? Ça, c'est la première question.
La deuxième question?
Alors, $1 milliard. Et l'invité dit que 1,3 milliard, si c'est 200, 1 milliard proviendrait de cette entreprise Émirats Arabes. Bon, maintenant là, qu'est-ce que le pays va gagner? Il faut qu'il y ait une traçabilité, qu'on sache réellement qu'est-ce que le pays gagnera et combien de temps ces gens-là resteront-ils ici.
On parle de 30 ans, ils vont exploiter le port pendant 30 ans.
30 ans, c'est beaucoup trop. Mais en termes de 30 ans maintenant, quelles sont les clauses? Parce qu'il y a des clauses là dans ce contrat qui a été fait. C'est mieux que la population sache aussi.
D'accord, donc merci.
Maintenant aussi, enfin, pour terminer, c'est beaucoup trop de propagande. On a vu des pierres qui ont été déposées, mais les projets n'ont pas été exécutés. Qu'on attende au moins l'exécution du projet, le commencement ou l'inauguration. Là, on se dira que ce n'est pas un éléphant blanc.
D'accord. Merci, Monsieur Apollinaire.
Merci Antoine de Kenge. Je crois que ce sont les mêmes préoccupations qui reviennent. Mais est-ce que c'est un instrument de propagande politique? Bon, écoutez, je suis président d'une coordination de la société civile. Mais je ne suis pas dans le parti politique du chef de l'État. Pourquoi il va inaugurer seulement aujourd'hui pour qu'il puisse gagner les élections? Bon, ça c'est de bonnes guerres. Je crois que les politiciens ont leur manière de faire. Je ne saurais pas vraiment vous dire quoi que ce soit, répondre à cette question-là. Mais les 1 milliard, mais qu'est-ce que le pays va gagner? Vous savez, nous avons parlé des activités que notre qui seront créés par la présence du port en eau profonde. Je crois que tous ces hommes d'affaires, ces sous-traitants qui vont travailler autour du port, ce sont des contribuables au trésor public congolais.
Donc c'est quelque chose qui va revenir dans la caisse de l'État en termes de dépôts, en termes de taxes et en termes même de services. Donc je crois que à ce niveau, si le port est créé et que les activités connexes sont réalisées, il y aura quand même des retombées fiscales et parafiscales au niveau du trésor public. Beaucoup trop de propagande, c'est comme sa première question. Ben, écoutez, dans notre pays, je ne pense pas que c'est Tshisekedi qui commence, mais nous avons vu ça avec l'ancien président, nous avons vu ça avec... moi, j'ai connu le président Mobutu. Je crois que des propagandes pour une action comme ça, et ça se fait toujours. Mais les grands rendez-vous qu'on s'est fixés à Mwanda, vous avez suivi les discours du gouverneur AI, Justin Lumba, du Congo central, il a dit que la grande journée, c'est le jour où nous allons inaugurer le port, où va accoster le premier bateau au port de Banane. Et le ministre de la Communication l'a aussi dit. Je crois que le gouvernement est certain et responsable sur cette question, que l'indicateur et les résultats attendus, c'est le premier bateau qui va accoster au port de Banana, au port à nos profondes de Banana. Donc,
en 2025.
Voir. Attendons voir.
Croisons les doigts. Comme on l'a dit. Merci, monsieur Apollinaire Nsoka, coordonnateur de la cité civile de Boma. Excellente journée et à la prochaine.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les auditeurs de Radio Capi.